Voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 8 avril 2014. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Anne, au sommaire de cette édition.
Le chef de la commission d'enquête de l'ONU dénonce le langage de haine en République centrafricaine.
Visite d'un site d'enseignement temporaire par notre envoyé spécial à Bangui, où les écoles publiques restent toujours fermées.
Deux Européens travaillant pour l'ONU assassinés dans le Puntland, en Somalie.
Washington met en garde Moscou contre toute ingérence directe ou indirecte dans l'est de l'Ukraine, où des protestataires pro-russes ont pris le contrôle de bâtiments administratifs dimanche.
Un prêtre jésuite de 75 ans, froidement assassiné à Homs, ville assiégée de Syrie, où il vivait depuis des décennies.
Plus de 814 millions d'électeurs ont commencé hier à se rendre aux urnes en Inde pour des élections générales. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Muntou et les sports. Pour l'instant, le journal. En République centrafricaine, la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes perpétrés depuis janvier 2013 a bouclé sa première mission hier à Bangui. Au cours d'une conférence de presse au bureau local des Nations Unies, le président de cette commission, Bernard Atio Muna, a dénoncé ce qu'il a appelé le langage de haine qui se poursuit dans le pays. Le point avec Darina Naidoo.
Ne voulant pas révéler les premiers résultats de leur enquête, Bernard Atio Muna a fait savoir que l'objectif de la mission est aussi de comprendre pourquoi des crimes ont lieu dans le pays. Il a dénoncé un langage de haine et appelle les médias et la population à plus de prudence.
Le langage de la haine est très dangereux. C'est là où la génocide commence. Le langage de la haine, j'entends tous les jours. C'est là, les gens qui parlent comme ça, ils veulent quoi ? Il y a des jeunes dans le quartier qui répètent le même langage. On ne veut plus de stèles.
Concernant la liste et le sort réservé aux auteurs des crimes, le président de la commission de l'enquête de l'ONU a expliqué que cela relève de la compétence du Conseil de sécurité et sa commission doit revenir à Bangui le 7 mai prochain. Par ailleurs, à Bouar, à l'ouest du pays, des anti-Balaka, appuyés par certains éléments des forces armées centrafricaines, ont tiré des coups de feu en l'air pendant plusieurs heures. Ils protestaient contre ce qu'ils appellent la brutalité des soldats français de l'opération Sangaris, une accusation qui a été formellement démentie par le colonel Benoît Walayer, commandant de la force française à Bouar.
Pour rester en Centrafrique, le retrait du contingent tchadien continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle du général Mohamed Moussa Dafan, l'un des leaders de l'ex-coalition Séléka. Au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura, il trouve regrettable le départ des Tchadiens, car pour lui, le retrait d'un seul contingent pourrait en entraîner d'autres.
Ce n'est pas bien de le laisser retirer un contingent parce que demain on va demander le retrait de notre contingent et ensuite on va demander le retrait de notre contingent. Finalement, on va demander le retrait de toutes les forces internationales. Et vous savez, les conséquences seront très fâcheuses. Toutefois, je sais qu'entre Centrafricains, les gens sont en mesure, ils sont assez matures pour pouvoir se parler et aller vers la réconciliation, même sans assistance extérieure. Mais une réconciliation nationale, il y a toujours des conditions, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la douleur des victimes. On ne peut pas passer ça sous silence, mais vraiment, en toute sincérité, le dernier événement qui a causé le départ du contingent tchadien, le rapport a été vraiment biaisé. Selon les informations à ma possession, effectivement, ce convoi du contingent tchadien était tombé dans une embuscade. Et il y aurait eu un faux rapport. Il y a eu un faux rapport.
Donc vous remettez en cause le rapport de l'ONU ?
Je remets en cause, je doute de ce rapport.
Le général Mohamed Moussa Dafan, l'un des leaders de l'ex-coalition Séléka, qui répondait aux questions de Bagassi Koura, notre envoyé spécial en RCA.
Le président rwandais Paul Kagame a rendu hommage hier aux victimes du génocide rwandais de 1994. Il s'est réjoui de la reconstruction rapide du pays au cours des 20 dernières années. Mais Kagame s'en est également pris à la communauté internationale sur fond d'incidents diplomatiques avec la France. Jean-Roger Bion.
Plusieurs chefs d'État africains et dignitaires étrangers ont pris part aux cérémonies commémoratives dans la capitale rwandaise. Tout a commencé par l'allumage d'une flamme en signe de deuil national au mémorial du génocide à Kigali. C'est le 7 avril, il y a 20 ans, que les milices interarmées de l'ethnie Hutu ont commencé le massacre des Tutsis et des Hutus modérés. 800 000 personnes ont été tuées en 100 jours. Le président Kagame au stade Amaro de Kigali.
As we pay tribute to the victims, both.
Alors que nous rendons hommage aux victimes, encore en vie ou décédées, nous saluons aussi l'esprit inébranlable des Rwandais à qui nous devons la survie et le renouvellement de notre pays. La France a retiré sa délégation pour protester contre les commentaires du président Kagame, accusant la France d'avoir joué un rôle dans la planification et l'exécution du génocide. Dans des accusations à peine voilées, M. Kagame a déclaré que les Rwandais continueront à chercher des explications concrètes au génocide, car selon lui, les faits sont têtus. La communauté internationale a été critiquée pour n'avoir rien fait pour empêcher le génocide en dépit de nombreux avertissements. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur place, a reconnu ses lacunes. Il a déclaré que la communauté internationale a encore beaucoup à apprendre des leçons du Rwanda pour éviter une répétition en République centrafricaine ou en Syrie.
Deux Européens travaillant pour les Nations Unies ont été tués en Somalie, dans la région autonome du Puntland. Leur assaillant a immédiatement été arrêté et une enquête ouverte, selon le président du Puntland. Les précisions de Michel Joseph.
Les deux victimes sont Simon Davis, un citoyen britannique et ancien agent de la police Scotland Yard, et Clément Gorissen, citoyen français, selon les autorités françaises, mais d'autres sources disent qu'il est canadien. Le président du Puntland, Abdi Willie Mohamed Ali, a déclaré qu'un agent de sécurité, malade mental, a abattu les deux employés de l'ONU ce lundi, alors qu'ils arrivaient à l'aéroport de Galkayo. Le tueur a été immédiatement arrêté et une enquête est ouverte. Selon la mission des Nations Unies en Somalie, les victimes travaillaient pour le bureau de lutte contre la drogue et la criminalité. Selon le président du Puntland, ils étaient venus participer à la construction d'une prison.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné ce qu'il a qualifié de meurtre de sang-froid de ces deux employés européens des Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche affirme avoir de solides preuves selon lesquelles certains des protestataires qui ont pris le contrôle de bâtiments administratifs dimanche dans trois villes de l'Est ukrainien n'étaient pas des habitants locaux, mais des gens payés pour le faire. Un porte-parole présidentiel a dit hier à la presse que l'administration Obama demande à la Russie de cesser ses interventions dans l'Est de l'Ukraine et menace de prendre d'autres sanctions si Moscou persiste dans ses actions. Si Moscou agit ouvertement ou en secret dans cette partie du pays, a averti le même porte-parole, ce sera considéré comme une très sérieuse escalade.
De son côté, le secrétaire d'État américain John Kerry a parlé à son homologue russe Sergueï Lavrov dans le cadre d'une longue série de discussions qu'ils ont sur l'Ukraine. Selon une porte-parole du département d'État américain, M. Kerry a dit à M. Lavrov que les événements de dimanche dans l'est de l'Ukraine ne semblaient pas spontanés, tout en appelant la Russie à désavouer publiquement les activités des séparatistes saboteurs et provocateurs. Pour rappel, des militants pro-russes ont pris le contrôle des bâtiments administratifs des services de sécurité à Donetsk, appelant à un référendum sur l'autonomie dans l'Est russophone. Nous y revenons avec Nathalie Barge.
Retranchés dans un bâtiment administratif de Donetsk, des centaines de militants réclament le droit de se séparer de l'Ukraine. D'autres manifestants pro-russes ont pris d'assaut des bâtiments à Lugansk et Kharkiv, dans l'Est de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de troupes russes sont encore massées à la frontière, officiellement pour participer à des manœuvres militaires. Ce qui inquiète le commandant de la force militaire de l'OTAN, le général américain Philip Breedlove. La force qui est actuellement à la frontière est de l'Ukraine est vraiment très importante et très bien préparée. Les forces de l'OTAN sont loin de la zone et les dirigeants de l'Alliance ont clairement fait savoir qu'ils ne veulent pas s'engager dans un conflit avec la Russie. La communauté internationale pourrait seulement alourdir les sanctions et renforcer l'isolement de la Russie.
Le Vatican annonce qu'un prêtre néerlandais a été abattu dans son monastère à Homs, une ville assiégée depuis un an et demi par les forces gouvernementales en Syrie. Le père Franz van der Lugt, qui est âgé de 75 ans, vivait depuis des décennies en Syrie et avait refusé de quitter Homs malgré les combats violents dans le secteur. Selon des témoins, le prêtre semble avoir été délibérément ciblé. Ils disent que l'assaillant est entré lundi dans le monastère pour sortir le prêtre de là et lui tirer ensuite une balle dans la tête. Le père van der Kocht était fort respecté à cause de ses efforts pour lever le blocus de la ville afin d'y faire parvenir des secours. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné ce crime et un porte-parole du Vatican a salué le courage du prêtre pour être resté fidèle au peuple syrien malgré la situation très dangereuse à Homs.
En outre, l'ONU multiplie les appels pour obtenir des fonds pour aider les millions de personnes affectées par la guerre en Syrie. Mais les donateurs ne se bousculent pas, ce qui a forcément des conséquences pour des millions de réfugiés et déplacés syriens. Nicolas Pinault.
En décembre dernier, l'ONU a lancé un appel pour obtenir 6,5 milliards de dollars pour aider quelques 9 millions de Syriens déplacés ou réfugiés dans la sous-région. Hier, le Koweït a contribué pour 250 millions de dollars et promet la même somme dans un avenir proche. Cela permet d'atteindre un total de 1,270 milliards de dollars, mais laisse 80% de la demande onusienne à combler. Lorsque l'argent manque, les agences onusiennes ne peuvent fournir de l'eau, de la nourriture, des soins médicaux et des abris pour les millions de personnes durement affectées par 3 ans de guerre en Syrie. Par exemple, le Programme alimentaire mondial, qui nourrit plus de 4 millions de déplacés en Syrie, a dû réduire les rations. Ce week-end, une personne a été tuée, des dizaines de blessés pendant de violentes manifestations à Zaatari, un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Antonio Guterres, le patron du HCR, espère que ce soit seulement un incident isolé. Au Liban, les réfugiés syriens ont dépassé le million de personnes, c'est-à-dire presque le quart de la population libanaise. Dans le long terme, cela risque de poser d'autres problèmes et les agences onusiennes sont assez frustrées face à cette sorte d'indifférence des donateurs qui jusque-là ne mettent pas la main au portefeuille.
En Inde, début hier des élections nationales, plus de 814 millions d'électeurs, cher Rubin Dorcil, sont appelés à choisir les membres des deux chambres du Parlement.
Les élections nationales en Inde sont présentées comme le plus grand exercice démocratique au monde. Le principal parti d'opposition, Bharatiya Janata, et ses alliés sont favoris pour rafler le plus grand nombre de sièges à la Chambre basse et à la Chambre populaire. Cependant, les derniers sondages indiquent que rien n'est définitivement acquis. Il faudra au moins 272 sièges pour former un gouvernement. Le parti du Congrès au pouvoir en Inde a été critiqué en raison de la forte inflation, de la crise économique et de plusieurs scandales liés à la corruption galopante au cours de sa décennie de règne. Le scrutin a débuté hier dans les États reculés de Tripura et Assam et le processus doit durer 5 semaines. Les résultats de près d'un million de bureaux de vote sont attendus le 16 mai.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Ici Washington, la voix de l'Amérique. En République centrafricaine, les écoles publiques restent toujours fermées. Les enseignants se plaignent de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et personne ne sait quand au juste ces écoles vont ouvrir. En attendant, l'UNICEF a mis en place des sites temporaires d'enseignement à Bangui, mais aussi à Bosangoa. Notre envoyé spécial Bagasu Koura s'est rendu sur l'un des sites, celui du monastère de Boyrab.
J'écris. Et après. Voilà, je retiens un. Et après.
Nous sommes ici dans ce qu'on pourrait appeler la classe de CM2, sauf qu'il s'agit d'une école spéciale. Et comme nous l'explique Defara Feibona-Etienne, l'un des coordonnateurs du site, ici on ne parle pas de classe mais plutôt d'étape. Entendez, espace temporaire d'apprentissage de protection de l'enfance.
On appelle ça étape parce qu'il y a une différence entre étape et une classe. Dans une classe, les conditions sont réunies. On a le tableau. On a les tables bancs, l'enfant est bien assis, il a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Mais ici, les enfants sont amènent le sol.
20h
8
ou 1
17h
Eric Kitio est également l'un des responsables. Il explique que l'objectif du site n'est pas de recréer forcément les conditions d'une école normale.
Non, c'est un programme informel que nous avons ici en général. Ce n'est pas un programme scolaire normal, informel. Pour apprendre les enfants la réconciliation, le pardon, la culture sur la paix et l'amour de son prochain.
Au temps fort de la crise centrafricaine, en décembre et janvier dernier notamment, il explique qu'on pouvait compter ici plus de 17 000 enfants. des enfants souvent traumatisés par la violence.
Au départ, on avait vraiment des difficultés. Les enfants qui disaient qu'ils ont perdu leurs parents, leurs frères, au départ, tous étaient vraiment perturbés, tous étaient vraiment touchés. Ils avaient vraiment vécu parce qu'ils ont vu le corps, ils ont vu comment on tuait les gens, donc tous étaient vraiment stressés.
Alors que les écoles publiques restent toujours fermées en raison de la crise, au total 23 000 enfants centrafricains selon l'UNICEF bénéficient chaque jour de l'enseignement dans les structures informelles. De Bangui Bagassi-Koura pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le Rwanda a commémoré hier le 20e anniversaire du début du génocide de 1994. En présence de plusieurs chefs d'État africains et dignitaires étrangers, la France n'était pas représentée à cette cérémonie et le président Paul Kagame a dénoncé le rôle de Paris pendant les massacres de plus de 800 000 personnes. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mathieu Lopez, vice-président de l'association Survie à Paris.
Il y a eu deux phases. Alors, sur la première phase où la France a annulé la participation de la ministre de la Justice Christiane Taubira, on peut dire qu'on a été particulièrement choqués de cette annulation. On a vu dans les années 2009 et 2010 les anciens dirigeants français Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner reconnaître des erreurs de la France au Rwanda. Et là, le gouvernement socialiste de François Hollande semble être en recul par rapport à cette position. On a l'impression que la France n'est plus capable d'entendre la moindre vérité, car il faut bien qu'un jour les autorités françaises regardent en face ce que notre pays a commis aux côtés du régime génocidaire au Rwanda en 1994.
Est-ce à dire que Paul Kagame a eu raison ?
Monsieur Kagame a sa propre manière de dire les choses et c'est pas à nous de commenter ce que Monsieur Kagame a dit en tout cas. C'est lui que ça regarde, il est président d'un État souverain. Nous, nous travaillons sur le sujet en tant que citoyens français depuis maintenant 20 ans, même 21 ans, puisque en 1993, le président de Survie a alerté les médias français sur l'imminence du génocide et sur la possibilité d'arrêter la machine génocidaire. Il n'a pas été entendu. Nous avons, par des enquêtes, par des entretiens, par une commission d'enquête citoyenne menée en 2004, mis à jour nous et d'autres personnes en France, le rôle pour le moins trouble, et nous parlons de complicité de génocide en ce qui concerne ce qui est avéré pour l'instant, via des livraisons d'armes, via la mise à l'abri des génocidaires au Zaïre, via un soutien diplomatique ininterrompu du régime extrémiste de l'époque. De manière indépendante, je tiens vraiment à le préciser, nous dénonçons depuis 20 ans, sans relâche, la complicité, en tout cas des autorités françaises, dans le génocide des Tutsis.
Et même après le génocide, on dit qu'il y a beaucoup de génocidaires présumés qui ont encore pignon sur rue en France.
Tout à fait. Il y a plusieurs dizaines, au moins, de responsables de haut niveau du génocide qui ont trouvé refuge en France. En mars, il y a eu le premier procès d'un de ces génocidaires, Pascal Sibikangwa, qui heureusement a été condamné à 25 ans. Nous, nous déplorons d'une part la lenteur qu'il a fallu pour qu'il y ait un premier procès, et puis d'autre part que surtout, pour l'instant, ces avancées ne concernent que des personnes accusées de génocide résidant sur le sol français qui sont rwandaises. Nous, nous aimerions, en tant que citoyens français, que les complices français des génocidaires soient aussi interrogés et que la justice s'empare de leur dossier.
C'était Mathieu Lopez, vice-président de l'association Survie à Paris.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
L'accord entre Areva et l'État du Niger sur l'exploitation de l'uranium sera signé dans quelques jours. À l'occasion du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir, ce 7 avril, le président nigérien a accordé un entretien à la Voix de l'Amérique. Mahamadou Issoufou affirme être confiant de son bilan à la tête du Niger et dit ne pas se préoccuper des élections de 2016. Nicolas Pineau a joint en exclusivité Mahamadou Issoufou.
L'objectif pour le Niger, c'est d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que cet objectif est sur le point d'être atteint. Nous sommes très proches d'un accord et certainement dans les prochains jours, on va procéder à sa signature.
Pouvez-vous garantir que le peuple nigérien sera le vrai bénéficiaire de cet accord alors que votre pays reste l'un des plus pauvres au monde ?
En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, que ce soit l'uranium ou le pétrole, l'or, etc. Mon objectif, c'est que les ressources tirées de l'exploitation de ces ressources profitent au peuple nigérien.
Est-ce que vous êtes satisfait de la coopération sécuritaire avec les Français et les Américains ? Demandez-vous plus ?
Nous sommes satisfaits de la coopération avec tous nos partenaires. Le Sahel est soumis à des menaces, le terrorisme, le crime organisé, etc. Nos partenaires nous ont beaucoup soutenus ces derniers mois, surtout en rapport avec ce qui s'est passé au Mali. Le terrorisme était très fortement affaibli. Mais cela ne veut pas dire qu'on l'a définitivement vaincu. Donc nous avons besoin encore de l'aide et du soutien de nos partenaires extérieurs afin d'éradiquer totalement le terrorisme du Sahel.
Est-ce que vous êtes inquiet de la situation actuelle en Libye?
Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la situation en Libye se stabilise. Tant que la Libye n'est pas stabilisée, nous courons des risques de déstabilisation dans l'ensemble du Sahel.
L'opposition politique vous accuse de manquer de transparence.
L'opposition, c'est normal qu'elle puisse prendre des positions critiques vis-à-vis du gouvernement. Je mets ça sur le compte du dynamisme de la démocratie nigérienne. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est le choc des idées, des opinions. L'opposition a sa vision de la situation. Nous avons la nôtre. Mais tout cela, c'est bon pour la santé de la démocratie au Niger.
Redoutez-vous une candidature d'Ama Amadou en 2016?
Non, mais je ne redoute aucune candidature, quelle qu'elle soit. Et pour l'instant, on n'est pas là. Ma préoccupation aujourd'hui est de travailler à la réalisation du programme sur la base duquel les Nigériens m'ont fait confiance. Je ne suis pas préoccupé par les élections de 2016.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui répondait aux questions de Nicolas Pino.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Burkina Faso, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, le nouveau parti des ex-compagnons du président Blaise Compaoré, a tenu son premier congrès ordinaire le week-end dernier à Ouagadougou, un bureau politique exécutif de 59 membres présidé par Roch Marc Christian Kabore a été mis en place. Nous y revenons avec ce reportage de notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo, qui nous dit que ce congrès a drainé une foule immense au stade municipal de Ouaga.
Pour écrire la nouvelle page de l'histoire politique du Burkina, comme le disait le thème du congrès, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, essaie tout d'abord de redessiner la cartographie politique du Faso. Roch Marc Christian Kabore, le président du MPP, explique.
Je dois vous préciser quand même que nous sommes nés il y a de cela 2 mois et quelques jours. Et comme nous l'avons dit, jamais un parti à sa naissance n'a connu autant d'adhésion. C'est donc vous dire que ce qui nous a préoccupé au cours de ce congrès, c'est d'abord de travailler à ce qu'avec un certain nombre de partis politiques, nous puissions fusionner. Et je dois vous dire, nous sommes certainement un parti qui a la taille de ses ambitions. Parce que notre ambition, est, comme tout parti, c'est la conquête du pouvoir d'État. Et quand vous allez pour conquérir le pouvoir d'État, ce n'est pas en allant dans une configuration réduite.
C'est par un meeting au stade municipal de Ouagadougou, plein comme un œuf, que le MPP a clôturé son congrès. Et son premier vice-président, Salif Diallo, a saisi l'occasion pour donner les grands points du programme politique MPP.
Le programme social-démocrate que nous avons bâti est là pour répondre aux aspirations profondes de ce peuple, de ce vaillant peuple meurtri, en lutte contre l'adversité naturelle et en lutte contre les inégalités de toutes sortes. Ce programme consacre l'économie de marché, mais une économie de marché régulée qui interdit les monopoles, les pillages. C'est un programme social-démocrate qui mettra en place une nouvelle gouvernance, une démocratie pleine, transparente et alternative. Alternative du point de vue social, mais qui consacre aussi l'alternance. Personne ne pourrait être au pouvoir plus de 10 ans encore dans ce pays avec le MPP.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Et maintenant les sports avec Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
À suivre à partir de ce soir, les quarts de finale retour de la Ligue des Champions en Europe.
Avec 3 buts d'avance, le Real se déplace au Borussia Dortmund. À Stamford Bridge, le Chelsea de Samuel Eto'o accueille le Paris Saint-Germain sans Zlatan Ibrahimovic blessé. Autre match demain, Idrissa, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone après un match nul 1-1 à l'aller. Même score avant le match en Allemagne entre le Bayern de Munich et Manchester United.
Et ses résultats hier soir dans le championnat italien?
Mis sous pression après la victoire de la Roma contre Cagliari 3-1, la Juventus de Turin n'a pas tremblé face au relégable Livourne. Hier, victoire 2-0, c'est l'Espagnol Llorente, auteur d'un doublé qui a offert un succès précieux à 6 journées de la fin du championnat italien. Enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Désolé pour les fans de la NBA, mais il n'y avait pas de match hier soir à cause du championnat national de basketball universitaire entre Kentucky et UConn, radio-télévisée à travers les États-Unis. Eh bien, si vous ne le savez pas déjà, c'est cette dernière, l'Université de Connecticut, qui est devenue la nouvelle championne universitaire en battant Kentucky 60-64. Voilà, merci encore à Nicolas Pinon. À présent, la musique de Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Idrissa. Adija Palmer, plus connu sous son nom de scène Vybz Kartel, chanteur jamaïcain de dancehall, est reconnu coupable du meurtre de Cleve Williams. Vybz est condamné à la prison à perpétuité. Et une de ses meilleures chansons, Somebody Afi Ball.
Yo, lay! Me no kyo kyo fi intimidate. Me say no. Me no be frightened man. Me no kyo fi show girl. Talk till you run out of breath. Me nah take no disrespect. From a boy violate, yo not nice. Somebody a fi ball, somebody a fi ball, somebody a fi lead. Don't man can't breathe.
Presque trois semaines après le verdict du 13 mars, la condamnation est tombée le vendredi dernier. Le juge Lennox Campbell a annoncé aux coupables leur sentence, la prison à vie pour chacun d'entre eux.
Oui, Idrissa, et Vybz Kartel ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après 35 ans de sûreté.
Vybz Kartel, Somebody Afi Ball. Merci Roger.
De rien, Idrissa. Et avec votre permission, je salue nos fidèles auditeurs de Bangui. Bonne journée, Idrissa.
Roger Muntou, que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel.
No boy da run like you see in board. Where do you when in the Beijing? I be a things when my rise day. Somebody ya fi ball. Somebody ya fi ball. Somebody ya fi lead. Don't man can't breathe. I'm out some boy run off. Me fly full speed. Somebody ya fi lead. Don't man can't breathe.
Them a loose man from day one. We spray spray like beer gun spray can.
No sir.
Me 16.
Free on.
No me no need tea.
Me one.
Wanna make them.
New brand.
Dash faster than Western.
Union.
Connect from Gaza go cross de la Vega to come on woman.
Big yard boonan.
We a them softly. Like R&B. The boy them start the war and we. Get the gun shot the car and we. Circle the ends on. Bust the gulk with extension. Clark the kill till it pop spring. Call the earth for the victim. Did the survivor them some napkin?
Come new say.
Somebody ya fi ball. Somebody ya fi ball. Somebody ya fi lead. Don't man can't breathe. I'm out some boy run off. Me fly full speed. Somebody ya fi lead. Don't man can't breathe.
Yo, leg.
Me no care be intimidate. Me say no.
Me no
be frightened man. Me no care be show girl. Talk till you run out of breath. Me nah take no disrespect.
From a boy violate, yo not nice. Somebody ya fi ball. Somebody ya fi ball.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Je précise le score de UConn 60 et Kentucky 54 pour le championnat universitaire américain d'hier soir. Maintenant, Anne nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Le chef de la commission d'enquête de l'ONU dénonce le langage de la haine en République centrafricaine. Deux Européens travaillant pour l'ONU assassinés dans le Puntland, en Somalie. Washington met en garde Moscou contre toute ingérence directe ou indirecte dans l'est de l'Ukraine, où des protestataires pro-russes ont pris le contrôle de bâtiments administratifs dimanche. Un prêtre jésuite de 75 ans froidement assassiné à Homs, ville assiégée de Syrie, où il vivait depuis des décennies. Et en Inde, plus de 814 millions d'électeurs ont commencé hier à se rendre aux urnes pour des élections générales.
Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Ici, Edwissa Sebuya à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.